repris la version de Martin, une ancienne version, et en partie la version Colombe. En effet, nul de nous, ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons au Seigneur. Et si nous mourons au Seigneur. Dans la colonne, il est dit « pour le Seigneur ». Je crois qu'il y a... C'est pas du bon français ici, j'avoue, mais puisque Martin l'a dit, je le dis comme ça. Je crois qu'il y a une petite différence entre vivre pour le Seigneur et vivre au Seigneur. Mais soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Le contexte de ce passage, c'est un problème dans l'église de Rome entre ceux qui pensent qu'ils peuvent manger certaines choses et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Ceux qui pensent qu'il faut garder certains jours et ceux qui pensent autrement. Mais comme le fait Paul souvent sous l'inspiration du Saint-Esprit, il, en apportant la solution à un problème particulier, il fait appel à un principe plus grand et universel qui solutionne ce problème, mais qui solutionne bien d'autres problèmes. D'accord ? Donc, vous voyez que ce que nous venons de lire est une vérité tout à fait universelle et fondationnelle, non pas simplement au problème de Romains 14, mais à toute la vie chrétienne. Et c'est pour cela que je me permets d'arracher ce texte de son contexte, parce que Paul fait souvent, Jésus fait souvent la même chose, que nos problèmes précis ne peuvent être résolus que par des vérités plus grandes qui s'adaptent à beaucoup de domaines. Et donc, je vais adapter ce passage biblique à toute notre vie chrétienne, si vous voulez, et vous voyez qu'il n'y a rien de limitant dans le passage qui nous empêcherait de faire cela. Nul de nous ne vit pour lui-même, nul de nous ne meurt pour lui-même, même... En mourant, on ne peut pas mourir en ayant égard à soi. Si nous vivons, nous vivons au Seigneur. Et si nous mourons au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ, regardez ça, car Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et les vivants. Littéralement, il dit pour dominer sur les morts et les vivants, mais le mot dominer, c'est le verbe qui correspond au nom Seigneur, pour seigneuriser sur les vivants et les morts. Voilà. Il y a quelques années, à Miami, un avion a décollé de l'aéroport, un petit avion. Avec quelques dizaines de plusieurs dizaines de passagers. À peu près 30 secondes après décollage, une minute, une des ailes s'est arrachée par la force du vent. Vous pouvez vous demander comment est-ce possible, vous volez souvent, ça vous fait peur, mais cette aile avait été réparée plusieurs années auparavant, mais mal réparé. Et vous pouvez comprendre, si vous pouvez réfléchir à cela, un avion avec une aile ne peut faire qu'une chose, rentrer dans une spirale, comme ça. Et donc, évidemment, tout le monde est mort. L'avion a plongé, ne pouvait que faire cela, et donc tout le monde est mort. Bien sûr, il y a eu une enquête, et dans l'enquête, un des ingénieurs qui a dû donner un rapport a dit ceci. Le plus grand problème dans mon jugement, c'est la perte d'élévation d'un côté de l'avion. Un état asymétrique et catastrophique. Vous comprenez? Asymétrique, hein, pour les jeunes. Donc, mon visage est symétrique. Ça veut dire qu'il y a une oreille de chaque côté, un œil de chaque côté. Donc, ce qu'il y a d'un côté, il y a exactement la même chose de l'autre côté. Donc, si c'est asymétrique, un avion, plutôt que d'avoir la même chose des deux côtés, il y a une aile d'un côté et pas d'aile de l'autre côté. Ça, c'est un état, une condition asymétrique. Donc, il dit un état asymétrique et catastrophique. Cela commence une spirale qui serait très difficile à arrêter. En réalité, dit l'ingénieur, ce serait mieux de perdre la moitié des deux ailes que d'en perdre une entièrement. N'est-ce pas? Et dans la vie chrétienne, un état asymétrique est catastrophique. Lorsque, surtout, cette asymétrie touche une vérité fondamentale de la vie chrétienne et qui a deux aspects, et vous ne vous occupez dans votre vie chrétienne d'un aspect. Et la réalité la plus fondamentale de votre vie chrétienne, c'est la seigneurie de Jésus-Christ. C'est comment vous vivez avec Christ en tant que Seigneur. Nous ne vivons pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons au Seigneur. Car Christ est mort et revenu à la vie, justement pour être dans ta vie le Seigneur. En fait, la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie est double face. À deux aspects. Quand moi je vous dis la seigneurie de Jésus-Christ, je sais que 80% de vous, au moins, vous pensez Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est patron. Faut lui obéir. Vous êtes un peu légaliste par le bord et vous ne voyez que cet aspect coupé de l'autre. Mais la Bible signifie deux choses par la seigneurie de Jésus-Christ et nous allons essayer de comprendre ces deux choses en regardant deux versets. D'accord? Le prochain verset est en 1 Corinthiens 8, où Paul va définir la divinité de Dieu, ou si vous voulez, la seigneurie de Christ, en évoquant deux aspects distincts. Il dit, car si il est des êtres qui sont appelés Dieu, s'il y a des dieux dans le monde, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, il veut dire plusieurs êtres spirituels auxquels les gens s'attachent comme des dieux. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. Donc, vous voyez les deux aspects ici de la divinité, où il dit un peu différemment chaque fois, de qui, littéralement, sont toutes choses, et à qui, littéralement, sont toutes choses. Dieu est Dieu parce que tout vient de lui, et tout est à lui. D'accord? Ça, c'est la définition de ce que c'est qu'être Dieu. Tout vient de toi et tout est pour toi. Ça va? C'est assez simple et logique. Prochain verset, Hébreux 2. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe. Vous voyez, il est en train de définir la divinité. Il définit Dieu comme étant celui par qui et pour qui tout existe. C'est une autre manière de dire que tout vient de lui et tout existe pour lui. Le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur. Ça veut dire deux choses et pas une. Ça veut dire que dans ta vie, toute bonne chose, toute grâce, toute rédemption, tout salut vient de lui. D'accord? Mais ça veut dire aussi que toute ton existence en tant que chrétien est pour lui. Pour lui. Je vais juste passer un moment à parler de chaque aile et puis nous allons examiner le passage de Romains 14, si vous voulez. D'abord, parlons un moment de la partie de lui. Et là, je parle de notre vie chrétienne et de notre salut. Le Seigneur nous révèle sa seigneurie d'une manière étonnante, au moins c'est elle. Il le révèle en étant la source de tout bien. Toute plénitude se trouve en Jésus-Christ, tout vient de lui. Le Seigneur est mon berger, il me conduit vers les verts pâturages, il me mène vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il, chers amis, personne ne peut sauver que lui, personne ne peut bénir comme lui. Et par la manière dont toute vraie bénédiction éternelle ne vient que de lui, de lui, de lui, il montre qu'il est différent, qu'il est Seigneur. Il dit, moi je suis le maître de la bénédiction, personne ne bénit que moi. C'est une manière formidable de montrer sa seigneurie, n'est-ce pas ? D'être le Seigneur de la bénédiction et nous lui donnons gloire. Toute chose de ce Dieu trinitaire vient de nous par ce Seigneur rédempteur. Il y avait un grand théologien qui a dit une phrase pour résumer ça un peu. Il a dit que toute la divinité de Dieu réside dans son habitude de sauver ou dans son activité habituelle de sauver. Ça donne à réfléchir. Toute la divinité réside dans cette action habituelle de Dieu de sauver et de bénir. D'accord. Il y avait un livre en anglais récemment publié qui s'intitulait, excusez-moi pour l'anglais, je vais traduire, « Enjoying God ». Et vous savez, sur la petite pub au dos, je lisais « Quelle meilleure manière de glorifier Dieu que de jouir de lui et de trouver satisfaction en lui ?» Il parle de cette aile, n'est-ce pas ? De tout ce qui vient de lui. Quelle meilleure manière de glorifier Jésus comme Seigneur que de jouir, de recevoir ce qui vient de lui et de le glorifier pour cela. N'est-ce pas? C'est vraiment magnifique. Il dit, c'est simple, radical, mais c'est le cœur de la vie chrétienne. Je suis d'accord à moitié. Parce qu'il y a une autre aile. Et un avion avec une aile de lui, parce que lorsque je suis en train de enjoy God, c'est-à-dire me délecter de lui, ou jouir de ce qui vient de lui, ou me réjouir en lui, je suis en train d'expérimenter ce qu'il est pour moi, ce que Dieu est pour moi, ce qui vient de lui. Je ne suis pas en train de vivre ce que je suis pour Dieu. Comme Romains 14 dit. D'accord ? Maintenant, parlons donc de cette deuxième aile. Et ça, c'est Romains 14. Peut-être on peut revenir juste pour que ce soit sur l'écran. Je dirais que toute la divinité de Dieu ou toute la seigneurie de Jésus-Christ réside aussi, non seulement dans son habitude de bénir, de donner, de sauver, mais aussi toute la divinité de Dieu, la seigneurie de Christ, réside dans son habitude d'exproprier. Alors, je m'explique. Pendant plusieurs années, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et après être rentré depuis des années, j'ai reçu la visite d'un homme qui avait été là après mon départ, au moment de la guerre civile. Vous êtes au courant, certains d'entre vous, de la guerre civile en Côte d'Ivoire, qui était terrible. Le pays était divisé à peu près au milieu, vers une grande ville qui s'appelle Boaké. Et dans la ville de Boaké, il y a une école chrétienne qui reçoit surtout des enfants de missionnaires de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été là, j'ai vu cette école, un grand endroit complexe, entouré de murs, avec des bâtiments, des terrains de foot, vraiment bien, super cette école. Mais il m'a dit que quand la guerre civile s'est passée, l'ONU a envoyé l'armée française pour être un tampon entre les forces rebelles du nord et les forces du gouvernement au sud, et donc il fallait qu'ils soient à Boaké. Mais à un moment donné, les forces rebelles du nord se sont attaquées même à l'armée française. Et au moment de cette bataille, ce monsieur qui travaillait dans cette école chrétienne à Boaké m'a dit que subitement un jour, l'armée française est entrée dans l'enceinte de l'école et a dit: nous exproprions toute l'école. Les bâtiments, les voitures, ils ont pris sa voiture à lui. Tout est à nous. Voilà. Pour le bien de tout le pays et pour le bien de l'école. Parce que c'était la seule manière d'empêcher les forces rebelles d'envahir en tuant tout ce qui était dans le passage. Exproprier, ça veut dire prendre pour... C'est à moi maintenant. D'accord? Et toute la... Pour une raison bonne et bénéfique. Et toute la divinité ou la seigneurie Jésus-Christ réside aussi dans son habitude d'exproprier tout pour lui. Et c'est pour cela que nous lisons que Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des vivants et des morts. Et ça veut dire que nous ne sommes pas à nous, nous sommes au Seigneur, nous avons été expropriés. Écoutez bien, ça veut dire simplement ceci pour ta vie chrétienne. Oui, tu glorifies Christ en expérimentant tout ce qu'il est comme le Seigneur bénissant et sauvant. Mais tu glorifies le Seigneur aussi en étant quelque chose à lui. Pas seulement ce qu'il est à toi, mais mon but, c'est oh, que je puisse devenir quelque chose à lui pour son nom. Nous voyons ceci, par exemple, cet aspect mutuel de la vie chrétienne, nous le voyons reflété dans le Cantique des Cantiques. Il y a un refrain qui revient, qui sonne un peu l'ambiance du Cantique des Cantiques, vous le savez. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et le chrétien doit dire les deux choses, sinon vous ne pouvez pas avancer. Le Seigneur Jésus-Christ est à moi dans toute sa bénédiction et sa capacité de sauver, et aussi très important et très magnifique pour moi, je suis complètement à lui et plus à moi-même. Ça veut dire que je reçois de lui dans la vie chrétienne. Mais ça veut dire aussi que la vie chrétienne, c'est qu'ils reçoivent de moi. Oh, qu'ils reçoivent de moi ce qui lui plaît. Maintenant, nous pouvons essayer de poser quelques questions à ce passage. Première question. Qui vit sous la seigneurie de Jésus-Christ? Et aujourd'hui, OK. Moi, je vais laisser cette aile aujourd'hui, tout ce qui vient de Christ, sa bénédiction, tout ce qui est pour moi, parce qu'on a parlé de ça tout le week-end, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais vous parler du fait que nous voulons être quelque chose pour lui et à lui. Et qui vit sur cette partie de la seigneurie de Christ? Alors, le verset est très clair. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul de nous ne meurt pour lui-même. Si nous vivons au Seigneur, et si nous mourons au Seigneur. Alors, ça c'est très bien parce que c'est clair que ce message est pour moi, et c'est une parole de Dieu lui-même qui m'est adressée, et aussi pour vous. Deuxième question. À quoi ressemble cette vie de de vivre sous la seigneurie expropriante de Christ. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un changement radical d'identité. Regardez le verset 8. Oh, je n'ai pas mis le verset, donc c'est au milieu. Il dit, nous sommes au Seigneur. Un changement radical d'identité. Qui est-ce que vous êtes? En tout cas, vous n'êtes pas à vous-même. Si vous existez même, chaque souffle, chaque geste, chaque pensée, normalement, est pour lui. Il vous a exproprié. Que nous mangions ou que nous vivions, que nous buvions, nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire aussi un changement d'autorité. Parce qu'on nous dit ici que Christ est mort et revenu à la vie pour dominer littéralement sur les vivants et les morts. Comment est-ce que vous savez que ce bras appartient à cette tête? Vous savez parce que quand cette tête donne l'ordre, lève-toi, il obéit. D'accord? Comment est-ce que vous savez que quelqu'un est à Jésus-Christ? Parce que vous vivez sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Et c'est une question d'autorité. Le but aussi change. L'identité, je suis à Christ, l'autorité de ma vie n'est plus moi-même et mon but n'est pas à l'égard de moi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, c'est toujours fasciné par cela. Ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où on dit ça, que le chrétien doit mourir au Christ. Et quand il vient mon temps pour mourir, moi je veux ce verset placardé devant moi si j'ai toujours mon bon sens pour que je puisse me rappeler maintenant, j'avais une phase de la vie chrétienne, vivre pour Christ. Maintenant, j'ai la deuxième. Il faut que je meure pour Christ. Il faut que je me rende et que j'accepte ce passage et que ce soit pour lui et à lui que je m'en vais vers le Père. Donc, voilà. Vous pouvez voir que si je ne suis pas à moi-même et si je suis sous l'autorité de Christ, et si mon but n'est pas de m'exalter ou d'arriver à un but personnel, mais je dis, quel est ton but, Seigneur? Dis-moi, que veux-tu, Seigneur? Eh bien, cela change grandement la vie chrétienne. Et cela nous délivre notamment de l'égocentrisme, par lequel l'homme égocentrique vit, il est à lui-même, il vit selon sa propre autorité et il vit pour ses propres buts, n'est-ce pas? Et c'est notre problème à nous tous, hein, toujours de voir cela transformé en nous. Alors, bon, tout cela c'est assez élémentaire, maintenant on va rentrer un peu plus profondément si vous voulez. Troisième question. Pourquoi serez-vous si béni si vous vivez sous la seigneurie expropriante de Jésus-Christ? Alors, les gens n'ont pas de problème avec cette aile du Seigneur bénissante et sauvante. Oui, je comprends la bénédiction là, mais comment est-ce que ça peut être béni de vivre sous l'expropriation de Jésus? Que je sois à lui et je fais ce qu'il veut. Alors, je vais essayer de vous dire, parce qu'il y a autant de bénédictions ici qu'ici. L'un côté est aussi bon et merveilleux que l'autre. Et donc, je vais vous l'expliquer d'abord en disant que, ici, toute cette description pour Paul est une partie, on ne vit pas pour lui-même, mais on vit pour Christ. Pour lui, c'est une partie de la rédemption. C'est ce que veut dire le fait d'être sauvé. Ça veut dire que maintenant, bénédiction, Christ domine sur moi. Pour lui, ça fait partie d'un bien, d'un salut, de quelque chose de formidable. Mais comment est-ce possible? Parce que nous, surtout si nous sommes français, si on nous dit qu'il y a une autorité extérieure qui nous dicte, on dit « Révolution !» Non, c'est moi-même qui suis le capitaine de mon âme. Comment est-ce que donc ça peut être une partie du salut ou de la vie bénie du moins? D'abord parce que quand vous vivez sous l'autorité de Jésus-Christ comme Seigneur, ça élève infiniment votre vie. On va regarder le prochain passage, enfin c'est Luc chapitre 5, pour vous donner un exemple de cela. Regardez ceci. Jésus va exproprier la vie de Pierre. Et en expropriant sa vie, en le mettant sous son autorité, il va élever Pierre incroyablement. Regardez. Simon Pierre lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient sous l'autorité du Christ. Il y a maintenant le divin qui est là. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche incroyable qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Tout le monde tremble. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivaient. Vous voyez, Jésus est l'exproprié. Il dit, « Ne crains rien, Pierre, parce que désormais, à partir de maintenant, tu quittes ton métier, tu quittes ta famille, tu abandonnes tout ce que tu étais jusqu'ici, et maintenant tu es complètement à moi. » Donc, il passe ainsi, par cette seigneurie expropriante de Jésus, il passe d'un simple pêcheur anonyme à l'apôtre Pierre, l'apôtre du Fils de Dieu. C'est formidable. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un soldat qui était dans un bureau, il faisait un job banal. Il poussait un stylo toute la journée. Mais à un moment donné, un des plus grands généraux de la Deuxième Guerre mondiale a envoyé un message. Je ne sais pas pour quelle raison il a choisi cet homme, mais il a dit, maintenant, il quitte le bureau, il est à moi, je le veux pour être mon assistant personnel pendant le reste de la guerre. Donc, il a exproprié. Cet homme a dû faire tout ce que le général voulait. Il était disponible à minuit, à 4 heures le matin, à n'importe quel moment. Il ne pouvait pas vivre pour lui-même, il vivait, mais pour le plus grand général de la guerre. Mais ça l'a élevé incroyablement. Il aurait pu même être écrivain, écrire les aventures, les choses incroyables. L'enrichissement qu'il a eu en vivant avec ce général, en apprenant, en faisant des choses qui pouvaient faire basculer la guerre. Oui, être exproprié sur la seigneurie du Fils de Dieu, c'est extrêmement élevant. Quelle bénédiction pour nous d'être complètement à lui. La dernière chose que je dirais au sujet de pourquoi c'est une bénédiction, je réponds toujours à cette question, c'est parce que c'est très satisfaisant. Si nous pouvons regarder le verset suivant. Jésus nous donne l'exemple parce que Jésus vivait sur la seigneurie de son Père pendant qu'il était sur terre. Il était exproprié par le Père. Est-ce que vous vous rappelez qu'il disait souvent des choses comme ceci? Pardon? Non, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais regardez juste l'attitude de Jésus. Jésus dit à ses disciples à un moment donné, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils étaient allés chercher de la nourriture, ils sont revenus, Jésus avait témoigné à la femme samaritaine, et quand ils reviennent avec la nourriture, Jésus n'a plus faim. Il n'a plus faim, il est tellement joyeux d'avoir pu faire la volonté du Père vis-à-vis de cette femme, il n'a plus faim. Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelle est cette nourriture dont tu ne connais? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est remarquable. Il dit, ce qui me nourrit, ce qui est une bénédiction pour moi, c'est d'être complètement exproprié par le Père et d'avoir à faire sa volonté sainte tout le temps. Et il dit, vous ne comprenez pas encore cette aile. Vous comprenez que je suis le Seigneur qui bénit, mais je vais vous montrer autre chose. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas encore. Mais les disciples vont entrer dans une telle expérience par rapport à Jésus. Ils vont vivre de plus en plus sous son autorité et trouver ça très béni. Ça va, vous me suivez jusqu'ici? Ok. Jusqu'à quel point le Seigneur Christ, est-ce que son expropriation s'étend sur vous? Et dans le verset 8 de Romains 14, si nous pouvons revenir en arrière, juste pour vous rappeler, c'est toujours bien de voir le texte. Souvent la Bible dit deux choses qui sont un peu des serre-livres pour inclure tout le reste qui va entre les deux. Et si nous vivons, nous sommes au Seigneur. Si nous mourons, nous sommes au Seigneur. C'est-à-dire, vraiment, il veut toute votre vie. Il veut que dans votre métier, vous travaillez non comme pour votre patron, mais comme au Seigneur. Comme pour vos études, pour votre service chrétien, que ce ne soit pas pour l'Église ou pour votre réputation. Mais il dit, je veux que vous soyez quelque chose à moi pour mon plaisir. Et nous voyons cela très fortement, si nous pouvons voir Philippiens chapitre 1. Paul le dit d'une manière similaire, mais très frappante. Il dit, suivant ma vive attente et mon espérance, que je n'aurai pas à rougir de honte, mais mon assurance reste en totale. Maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est ça l'attitude. Il dit, c'est vraiment, ça m'importe vraiment pas grand-chose. Si je vis ou si je meurs, c'est pas à moi de décider. Tout ce qui m'intéresse, c'est que Christ peut recevoir de moi, que je puisse être ce pour quoi il aura plaisir. Ce en quoi il aura plaisir. Jésus, nous voyons constamment... Il dit des choses comme ceci, « Je dois être aux affaires de mon Père. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je dois prêcher le royaume dans les autres villages. Je dois être délivré entre les mains des hommes. Non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Constamment, il veut être quelque chose envers le Père, pour le plaisir du Père. Et la beauté de la vie de Jésus-Christ, pour moi en grande partie, c'est que toujours, partout, malgré tout, en tout, il est au Père. Il veut être quelque chose pour le plaisir du Père. Maintenant, je finis avec ceci, et ça va être court. Vivre sous la seigneurie expropriante de Christ, qu'est-ce que ça change dans ta vie chrétienne? J'ai bien peur qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements au sujet de... un enseignement qui dit, nous glorifions le Seigneur lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Si tu veux glorifier le Seigneur, réjouis-toi, jouis de tous ses biens, et c'est comme ça que tu le glorifies. Et... si c'est le seul aspect de la vie chrétienne, le problème, c'est que nous aboutissons sur un peu une vie chrétienne qui ressemble à un autre livre que j'ai vu dont le titre est Devenir, écoutez ceci, Devenir une femme qui trouve pleine satisfaction en Dieu. Quand j'ai lu ce titre, j'étais triste. Devenir une femme qui trouve pleine satisfaction en Dieu. Moi, je voudrais écrire aussi un livre qui dit « Devenir un homme qui donne pleine satisfaction à Dieu ». Parce que si ma vie chrétienne est seulement devenir un homme ou une femme qui trouve pleine satisfaction en Dieu, Dieu devient le Dieu qui répond à mes attentes. Il est là pour ma satisfaction. Mon seul rapport avec lui est par rapport à ma satisfaction. C'est là que je le rencontre. Et ça ne peut que devenir égoïste. Mais je pense que lui aussi est là. Et mon sauveur qui est mort sur la croix, lui aussi doit trouver quand même une satisfaction en moi ou en vous. Et lorsque nous ajoutons cette aile à notre vie chrétienne, cela change tout. Premier exemple, la prière. La prière est un moyen de recevoir de Christ, n'est-ce pas? On est béni dans la prière, tout vient de lui, et nous voyons qu'il est le Seigneur de la bénédiction, et c'est merveilleux. Mais, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas comme, toujours comme ça pour moi dans la prière. Parfois, je ne reçois rien. Et parfois, c'est le Seigneur lui-même. Parfois, ce n'est pas un péché, mais c'est le Seigneur lui-même qui fait en sorte que je n'ai pas cette aile, mais j'ai trouvé une autre aile à la prière. Et la prière n'est pas seulement de recevoir de lui, mais de lui rendre hommage. Si nous pouvons voir le psaume 141, « Que ma prière te soit offerte comme de l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Il y a deux aspects très distincts dans la prière, ce que je reçois de Dieu et ce que je peux rendre. Et quand, souvent le matin, je vais devant Dieu et je chante un chant qui dit, je traduis, « Saint, Saint, Saint est Dieu, que tôt le matin, mon hommage monte à toi. » Et dans le livre d'Apocalypse, on voit plusieurs fois que les anges et les hommes ensemble disent que Dieu, que celui qui est sur le trône et que l'agneau reçoivent la louange, la gloire, la sagesse, la puissance à tout jamais. Même si je ne suis pas béni dans la prière, même si je ne reçois rien de palpable, je peux quand même rendre hommage. Satisfais-toi parce que je te dis Saint, 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 et glorieux est ton nom. Que je puisse être quelque chose pour toi aujourd'hui, toi qui m'expropies. Deuxième exemple, quand on vit sous cette seigneurie expropriante de Christ, ça crée une confiance complètement différente dans la vie chrétienne et le service chrétien. Je vous donne un exemple en Jérémie. Jérémie ne veut pas servir le Seigneur. Il dit, « Ah Seigneur, je ne sais point parler car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel maintenant l'exproprie. Regarde, c'est fort, hein? L'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà l'autre aile. Le Dieu qui bénit, le Dieu qui expropie, le Dieu qui bénit, mais les deux vont ensemble. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voilà, imaginez Jérémie qui va maintenant, qui arrive dans un lieu et qui doit prêcher. Mais quelle confiance quand il sait, ah, Seigneur, je ne peux pas vraiment faire ça, est-ce que Dieu va être avec moi? Mais il m'a dit, tu iras. Tout, dans tous les endroits où je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ai dit. Et donc, me voilà, c'est pas moi qui a voulu cela. Donc, je suis sur son autorité. Et bien sûr, je peux m'attendre avec confiance à sa présence. On le voit plus clairement chez Pierre, si nous pouvons voir le verset suivant. Comment l'expropriation, l'autorité de Christ mène à une confiance dans sa présence. Simon, non, c'est pas ça, c'est Jean chapitre 21. Oui, non, 21. Si je l'ai mis, sinon je ne l'ai pas mis. Ok. Donc je vais vous lire. Pardon. Je vais vous raconter tout simplement. Nous sommes vraiment à la fin. Excusez-moi d'avoir été long. Mais regardez cette image. Vous savez que Jésus est venu marchant sur les eaux un jour. Et Pierre, comme d'hab, il est irréfléchi, il est impétueux. Et il dit, Seigneur, commande-moi de venir à toi. Il veut être sous l'expropriation de Jésus, n'est-ce pas? Il veut. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Pourquoi est-ce qu'il veut être sur la seigneurie commandante de Jésus? Parce que il sait que s'il vient sur l'eau de lui-même, de sa propre autorité, qu'est-ce qui va arriver? Mais dès que Jésus prononce cette parole, viens à moi, dès qu'il est sous l'autorité de Christ, il a la confiance de marcher sur l'eau. Vous voyez? C'est incroyable. Mais seulement si Christ te dit comme Seigneur, seulement peux-tu avoir une telle confiance si tu es sous son autorité et si tu es en train d'être quelque chose à lui, par lui, selon lui et pour lui. Je pense que ça résume plein de décisions morales aussi. Une jeune dame est venue vers John Stott un jour. Elle voulait se marier à un non-chrétien. Et John Stott lui a montré les versets comme quoi ce n'est pas possible. Un chrétien doit épouser un chrétien. Elle a dit, mais ça, c'est pas possible. Parce que si c'est décidé d'avance, je ne suis pas libre. Justement, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous sommes au Seigneur. Et heureusement, parce que son chemin est le chemin du bonheur. Et la dernière chose que je dirais, le dernier changement, c'est que quand on vit avec les deux ailes, voyant Christ comme le Seigneur qui bénit, le glorifiant, recevant de lui, et le glorifiant en étant quelque chose pour sa satisfaction, ça purifie, stabilise et élève toute autre partie de la vie chrétienne. Quelqu'un qui connaît cette seigneurie de Christ de plus en plus, qui est conscient que Christ n'est pas seulement quelqu'un qui me satisfait à merveille, mais quelqu'un que je dois satisfaire. Il n'est pas le petit Dieu qui satisfait du peu que vous lui donnez. Il est le Dieu exigeant, qui demande tout, qui aura tout, qui est Dieu, et qui vous dit que l'existence n'est pas au sujet de votre vie, c'est au sujet de moi. Et lorsque nous entrons sur cette réalité, nous entrons pleinement dans la bénédiction de la Seigneurie de Christ qui nous aime et qui dit, mon bien-aimé est à moi. Et je suis allé.
Super, chers amis, nous allons chanter à la lumière de ce que nous venons d'entendre. J'aimerais qu'on projette, si possible, le refrain.